إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا مضل فلا هادي له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 53 dans la lecture du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim, du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son commentaire qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Déjà, je ne sais pas, peut-être que certains frères n'étaient pas là au début quand on a commencé le livre. On avait expliqué sur quoi s'était basé le livre. En fait, le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il a fait une série de cours à la radio Idha'atul Qur'an al-Karim. Et donc, il expliquait le livre pendant des émissions de radio. Puis, une fois que le livre a été complété, en passant, les cours audio sont disponibles sur Internet. Ceux qui veulent écouter l'explication du livre qui avait été faite par le Cheikh à la radio, et bien, ces cours-là sont disponibles déjà en ligne sur Internet, en arabe. Donc, ces cours ont été par la suite retranscrits, puis publiés. D'accord. Donc c'est ça, à la base c'était une explication qui avait été faite par le Cheikh, donc en audio. Donc là le Cheikh, maintenant on a expliqué au dernier cours certains hadiths qui ont rapport avec le sujet de contredire les mouchriquines, de se distinguer des juifs et des chrétiens, de ne pas les imiter. On a l'exemple ici des gens du livre, l'exemple que le professeur a donné à propos des gens du livre, de ne pas les imiter dans les questions qui ont rapport avec le jeûne, le ramadan. Par exemple, le professeur avait dit qu'il ne faut pas retarder l'iftar, et il ne faut pas trop avancer le suhoor, mais il faut que, yani, on retarde le suhoor et qu'on précipite l'iftar, c'est-à-dire briser le jeûne, on doit le faire le plus vite possible. Et quand l'aube rentre, eh bien, il faut retarder le fait de manger avant l'aube. Il ne faut pas arrêter de manger trop tôt. Il faut aller jusqu'à l'aube et non pas avant. Je vais éteindre ça, hein, parce que ça dérange là. Et les petits bruits de gouttes d'eau. On dirait que il y a une fuite quelque part. Non. طيب. Donc là on parlait du sujet de se distinguer des juifs et des chrétiens à ce sujet-là, et là le cheikh il énumère encore d'autres hadiths qui confirment le principe de se distinguer des koufars, et on va lire quelques-uns ensemble sur ce sujet-là et sur d'autres sujets, le sujet du jeûne et le sujet d'autres détails aussi que vous allez voir, inshallah. Donc le premier hadith qu'on va lire aujourd'hui, قال وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا السلط بن بهران عن الحارث بن وهب عن عبد الرحمن الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم ومضاهة لليهود ما لم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهة للنصرانية وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها نعم. Donc ça c'est rapporté par al-Tabarani. Le hadith, il dit, selon Abdurrahman ibn al-Sanabihi, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ma umma va être toujours accrochée à la sunna, à la vérité, tant qu'elle ne retarde pas le maghrib jusqu'à ce que les étoiles sortent, et tant par imitation des juifs, et tant qu'elle ne qu'elle ne devance pas l'aube jusqu'à ce que les étoiles disparaissent ou qu'elle ne retarde pas la prière de l'aube ou bien l'aube jusqu'à ce que les étoiles disparaissent par imitation des chrétiens. Donc et walam yakilu al-janaiza ila ahliha, et qu'ils ne remettent pas les funérailles à ceux qui s'en occupent. وقال سعيد بن منصور حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فنهاني عنه بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك وقال إنما يفعل ذلك النصارى صوموا كما أمركم الله وأتم الصوم كما أمركم الله ثم أتم الصيام إلى الليل وإذا كان الليل فأفطروا وقد رواه أحمد في المسند. Donc il dit que c'est rapporté selon Saïd ibn Mansour que Ubayd ibn Iyad ibn Laqit a rapporté selon son père, selon Layla, l'épouse de Bashir ibn al-Khassasiyah, qu'elle voulait faire un jeûne 2 jours de suite, 2 jours consécutifs sans arrêt. Alors Bashir, son mari, lui a interdit de le faire et lui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait interdit de faire ça. Alors il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est uniquement les chrétiens qui font ça. Alors jeûnez comme Allah vous a ordonné de faire, complétez votre jeûne comme Allah vous a ordonné de le faire. Il cite le verset ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, c'est-à-dire et complétez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au maghrib. Et donc lorsque c'est la nuit, eh bien brisez votre jeûne. Et ça c'est rapporté par Ahmad également dans la Musnad. Il dit فَعَلَّلَ النَّهْيُ فَعَلَّلَ النَّهْيَ عَنِ الْوُصَالِ بِأَنَّهُ صَوْمُ النَّصَارَى وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. Donc il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a donné la raison dans l'interdiction de faire les jeûnes ininterrompus ou sans arrêt, de jeûner sans arrêt. Il a donné la raison de ça, que c'était de ne pas le faire parce que c'est le jeûne des chrétiens. C'est-à-dire, faites-le pas, parce que ça, c'est le jeûne que font les chrétiens. Et c'est exactement comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il dit le cheikh qu'il semble que ce serait des exemples de ce que les rabbins ont inventé ou innové dans la religion. Il dit ensuite, « وَعَنْ حَمَّادِ بِنْ ثَابِتْ عَنْ أَنَسْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَضَتِ الْمَرْأَةِ فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعمار بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما. فخرجنا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثرهما فسقاهما فعرفنا أنه لم يجد عليهما. رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم حتى قالوا ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Hammad, selon Thabit, selon Anas radiallahu anhu, que les Juifs, lorsque leur femme avait leur période de menstruation, eh bien ils ne s'assoyaient pas avec elle pour manger, et ils ne restaient pas avec elle, ou bien plutôt elle ne restait pas avec eux dans la maison au moment où elle avait leur période de menstruation. En fait, ils l'envoyaient dans une maison spéciale où elle passe ses jours de menstruation là-bas, en dehors de la famille. Parce que les Juifs, ils croyaient que quand la femme est en état d'impureté, elle devient impure, et que tout ce qu'elle touche devient impur aussi. Donc, ils la mettaient à l'écart. Ils la mettaient dans une pièce spéciale, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc, ils n'avaient pas de relation avec leur épouse, pas seulement des rapports intimes, mais même les relations de la vie de tous les jours. Ils ne fréquentaient pas leurs épouses du tout durant les périodes de menstruation. Alors, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet des femmes pendant leurs règles. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les femmes dans cette période-là? Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre justement à ce sujet le verset 222 dans Sourate Al-Baqarah. Et c'était à propos justement des règles des femmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet qu'est-ce qui signifie. Et il t'interroge sur les menstruations des femmes. Dit, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant leur menstrue. Et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles, suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Donc, on voit ici que le verset, il mentionne des règles générales et il n'explique pas les détails. Et c'est pour cette raison-là qu'on retourne toujours au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous expliquer comment appliquer la révélation du Coran et comment on doit comprendre le Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a interprété, il a expliqué ce verset en particulier et il a dit « Isma'u kulla shay illa nikah » C'est-à-dire, faites avec vos épouses tout ce que vous voulez, excepté l'acte sexuel lui-même. C'est-à-dire la pénétration, les actes intimes durant cette période-là, précisément. Mais en dehors de ça, vous pouvez profiter de vos épouses et rester avec elles pendant cette période-là, dormir avec elles, il n'y a pas de problème. Être dans le même lit avec elles, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est interdit, c'est de faire l'acte lui-même. Et même que c'est rapporté qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque par exemple les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient leur période de menstruation, elles mettaient, comme c'est mentionné dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, elles attachaient un isar autour de leur taille. Hein? Et puis, durant leur période de règles, elles mettaient donc comme un genre de jupe, yani autour de leur taille. Hein? Puis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait, yani, disons, jouir de sa femme comme il voulait, en dehors de cette partie-là, entre les genoux et les... Et entre les, la taille, disons, la taille. Donc, entre la partie où la femme couvrait. Hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites qu'est-ce que vous voulez, sauf le rapport sexuel. Donc, quand les juifs ont entendu ça, ils ont dit, à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du prophète, ils ont dit, cet homme ne veut rien laisser de nos affaires, excepté qu'il veut nous contredire dedans. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est de notre religion, excepté que cet homme-là veut faire le contraire de nous. Hein? Donc, Asiyad ibn Hudayr, quand il a entendu ça, ainsi que Abbad ibn Bishr, ils sont allés voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui ont dit, ô messager d'Allah, les juifs ont dit telle et telle chose. Ils ont répété au prophète, sallallahu alayhi wa qu'est-ce que les juifs ont dit, du fait que l'islam, il permet, hein, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a permis de faire tout avec ton épouse quand elle a ses règles, excepté les rapports sexuels. Alors, eux, ils ont entendu ça de la part des juifs, ils ont dit, est-ce qu'on ne devrait pas les contredire plus encore, puis avoir même des rapports intimes avec elles complètement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son visage a changé. Il dit, jusqu'à ce qu'on a pensé qu'il était en colère contre nous. Alors, ils sont tous les deux sortis. Asiyad ibn Hudayr et Abbad ibn Bishr, ils sont sortis. Et au moment où ils sortaient, quelqu'un apportait un cadeau, comme du laban au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme du lait. Alors, au moment où eux, ils sortaient, donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu le cadeau, puis il a fait quelqu'un aller les rappeler, les deux sahabis qui sont sortis. Hein, il pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fâché, et quand il a reçu le cadeau, il les a rappelés, il a dit revenez, et puis il leur a fait partager le lait avec eux. Donc, ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas en colère contre eux. Et ça, c'est rapporté par Muslim. Et le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit que ce hadith-là, ça indique que il y a beaucoup de règles que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquelles il y a l'ordre de contredire les juifs. Et il dit que il était ordonné de les contredire dans leurs affaires générales, en général, jusqu'à ce qu'ils disent, c'est-à-dire les juifs ont remarqué ça, à tel point qu'on devait contredire les juifs, que les juifs ont remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout pour les contredire dans tout. Alors il a dit, cet homme-là, il ne laisse rien de notre religion, excepté qu'il veut nous contredire dedans. ثم إن المخالفة كما سنبينها تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصلها بل خالفوا في وصفها حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى فلما أراد بعض الصحابة أن يتعدى في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Non. Donc il a dit que des fois, comme par exemple, des fois il y a des règles dans lesquelles on est ordonné de contredire les juifs. Et il dit, on va expliquer ça plus en détail par la suite. Mais il y a des choses qu'on doit contredire dans la base du verdict. Et il y en a d'autres, c'est uniquement dans une des caractéristiques ou des descriptions de la chose qu'on doit les contredire. Il dit donc, le fait de s'écarter de la femme qui a ses règles, eh bien, on n'a pas été ordonné de les contredire, on ne les a pas contredits dans la base, hein, c'est-à-dire, on les a contredits uniquement dans la description. Donc, eux, les juifs, ils coupaient complètement la femme, ils se mettaient complètement à l'écart d'elle, et nous on s'est mis à l'écart d'elle dans le fait de ne pas avoir des rapports intimes avec elle seulement, et dans le reste on ne s'est pas mis à l'écart de la femme. Donc c'est pour dire que on n'est pas contre qu'est-ce qu'ils ont dit dans la base de s'écarter des femmes. Y a ça aussi dans l'islam, mais c'est limité à l'acte sexuel ou l'endroit où il y a un mal, hein, c'est-à-dire l'endroit d'où le sang sort. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'interdiction pour nous. Donc c'est une description particulière et spécifique de la contradiction qu'on doit respecter. Et donc il dit, quand les sahabas ont voulu dépasser l'ordre de la contradiction et à un point qui les amène à contredire ce que Allah a légiféré et faire plus ou moins que qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné comme contradiction dans ces affaires spécifiques-là, à ce moment-là, le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé. Il n'a pas aimé ça.
وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة أغلال عظيمة فابتدع النصارى ترك ذلك كله بلا شرع من الله حتى إنهم لا ينجسون شيئا فهدى الأمة بما شرعه لها إلى الوسط من ذلك وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا فاجتناب ما لم يشرعه الله اجتنابه مقاربة لليهود وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
Donc le cheikh dit, on voit dans l'exemple de qu'est-ce qui est mentionné dans cette catégorie-là de la religion, la question de la purification ou de la pureté. Eh bien, les juifs avaient beaucoup de, comme on dit, de joug sur eux, du fait que dans leur religion, il y a beaucoup de contraintes ou des choses très difficiles dans la purification par rapport au judaïsme. D'accord ? Tandis que les chrétiens, eux, sont allés dans l'autre extrême, à un point tel qu'ils ne considèrent rien comme étant impur. C'est-à-dire, le chrétien, il va avoir même des rapports intimes avec sa femme, même pendant ses règles. Il ne va pas considérer que quelque chose est impur. Il ne considère pas le sang impur, il ne considère pas le porc impur, il ne considère pas l'urine impure, même les excréments. Il va marcher dans les excréments d'animaux ou de chiens dehors, il rentre dans l'église avec ses souliers, c'est pas grave. C'est pas comme, il n'y a pas de règle de purification pour eux. Il n'y a pas même de wudu pour faire la salade dans le christianisme. Hein? C'est juste tu pries comme ça n'importe comment, n'importe quand. L'ablution, la purification, le rosul, ça n'existe pas. Tu peux prier pour eux, tu peux prier même si tu es dans la janaba, hein? Même si la femme elle a ses règles, elle peut prier quand même. Il n'y a pas de différence pour eux entre l'état de pureté et l'état d'impureté, tout est pareil. Donc, ça c'est un exemple de deux extrêmes. L'extrême du judaïsme qui met des règles, qui avait des règles très très rigides, très dures, hein, et l'exemple des chrétiens qui, eux sont à l'autre extrême, tout est pur pour eux. Même les choses impures sont pures. Allah al-Musta'an. Donc, l'islam, la religion de l'islam, et la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la umma de l'équilibre, de la modération et du juste milieu entre les deux extrêmes des juifs et des chrétiens. Et il y a beaucoup d'exemples de ça dans la question de la purification et dans d'autres exemples également de la religion. Il dit donc que donc c'est ça, si c'est qu'est-ce qui a rapport avec qu'est-ce que font les juifs, hein, et donc on doit s'écarter de ce qu'ils font, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré. On ne doit pas essayer de se rapprocher des juifs. Et la même chose, on ne doit pas essayer de se rapprocher des chrétiens dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré. Parce que la meilleure guidance, c'est la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Il dit ensuite, عن أبي أمامة عن عمر بن عبسة قال كنت أنا وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة فإنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. وقال سمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت له ما أنت؟ فقال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الرحم، بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. فقلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. وقال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتيني. Donc ça c'est une belle histoire en fait. Donc on va lire la suite. Je vais traduire une partie puis on va lire la suite après. Naam. Donc qu'est-ce que c'est ce hadith? C'est rapporté selon Abi Umama, selon Amr ibn Abasa, qui l'a dit. Quand j'étais dans la Jahiliya, c'est-à-dire à l'époque avant l'islam. J'ai toujours pensé que les gens sont dans l'égarement. C'est-à-dire, même quand j'étais avant l'islam, dans la Jahiliya, je pensais toujours que, les gens sont dans l'égarement. Donc lui, il était sur la fitra. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'est pas correct. Il sentait que le shirk et l'idolâtrie, que tout ça, c'était pas bon. Il dit, je considérais que tout le monde sont dans, l'égarement. Et qu'ils ne se tiennent pas sur rien de solide alors qu'ils adorent les idoles. Tu vois? Donc lui était contre ça, même avant. Il dit, j'ai entendu parler d'un homme qui était à Mecca et qui racontait des choses. Alors j'ai pris ma monture et je suis parti vers Mecca pour le rencontrer. Il dit, quand je suis arrivé à Mecca, j'ai entendu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était caché. C'est-à-dire, étant donné que son peuple lui donnait des problèmes, il n'était pas facile à trouver. Son peuple le poursuivait, il était derrière lui. Alors il dit, doucement, j'ai essayé de le retrouver à Mecca, et puis je suis rentré à l'endroit où il était. Et je lui ai posé des questions. Je lui ai demandé, qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Il a dit, je suis un prophète. Il a dit, qu'est-ce qu'un prophète? Il a dit, un prophète, ça veut dire que Allah m'a envoyé. Alors il a dit, et avec quoi t'a-t-il envoyé? Il a dit, il m'a envoyé avec le fait de garder les liens de parenté, de briser les idoles, et d'unifier Allah, et que rien ne soit associé avec lui. Alors, il dit, et son nom c'est qui? C'est Amr ibn Abasa. Il a dit, j'ai dit à ce moment-là, et c'est qui est-ce qui te suit dans cette chose que tu appelles, auquel tu appelles les gens? Il a dit, Hurrun wa abd. C'est-à-dire, un homme libre et un esclave. Subhanallah. À cette époque-là, il y avait deux personnes qui suivaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seulement, sur la terre entière. Un homme libre et un esclave. C'est pas comme les milliards aujourd'hui qui se disent musulmans. Et à cette époque, il n'y avait que deux hommes qui le suivaient. Un esclave et un homme libre. Alors il a dit quoi? Il a dit ça, c'était Abu Bakr et Bilal. C'était Abu Bakr et Bilal qui le suivaient à ce moment-là. Il n'y avait personne d'autre. Ça c'est parmi les hommes. Après il dit, l'homme a dit, Amr ibn Abasa, il a dit, je vais te suivre. Moi aussi, je vais être musulman. Je vais te suivre moi aussi. Il a dit, tu ne seras pas capable de me suivre comme aujourd'hui. Elle dit, tu ne seras pas capable de me suivre. Il dit, ne vois-tu pas mon état et l'état des gens? Tu vois dans quelle difficulté nous sommes à l'époque actuelle. On est faible et on est peu nombreux et on est maltraité, on est opprimé par les gens. Donc, tu ne pourras pas me suivre maintenant. Mais retourne chez ta famille et lorsque tu entends que je suis sorti, que je suis apparu, que mon message commence à se propager, alors viens me voir. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أستخبر الأخبار وأسأل الناس حتى قدم نفر من أهل يثرب أي من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه الصراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الذل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفي فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان بين قرني الشيطان فحينئذ يسجد لها الكفار وذكر الحديث رواه مسلم. Donc le cheikh il dit que Amr ibn Absa il dit je suis retourné dans ma famille et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Alors que j'étais dans ma famille, j'ai commencé à me renseigner et poser des questions à propos des informations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je demandais aux gens jusqu'à ce qu'un groupe vienne, hein, des gens de Al-Madina, puis je leur dis qu'est-ce que cet homme a fait, celui qui est arrivé à Médine, qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit les gens, ils voulaient essayer de le tuer, son peuple a essayé de le tuer et ils n'ont pas été capables. Alors il est venu à Médine, alors il est allé voir le messager d'Allah, il est allé voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, ô messager d'Allah, est-ce que tu me reconnais? Il a dit, oui, je te reconnais, tu es l'homme qui m'avait rencontré à Mecca. Il a dit, alors j'ai dit, ô prophète d'Allah, informe-moi de ce que Allah t'a enseigné et de ce que j'ignore. Alors il lui a dit, à propos de la salat, il lui a dit, la salat, hein, fais ta salat de subh, puis cesse de faire la salat jusqu'à ce que le soleil s'est levé, jusqu'à ce qu'il se soit élevé dans le ciel. Et il dit, parce que le soleil se lève, au moment où il se lève de l'horizon, entre deux cornes du shaitan. Et à ce moment-là, les mécréants se prosternent au soleil. Alors, abstiens-toi de prier dans ce moment-là. Puis ensuite, fais la salat. Parce que la salat, il y a un témoin, il y a des témoins qui viennent assister et qui sont présents lorsque tu fais la salade. Puis, jusqu'à ce que, yani, si tu plantes une lance dans le sol, hein, et que tu ne vois pas l'ombre, hein, tu plantes une lance dans le sol, tu ne vois pas l'ombre, ça c'est le zénith. Hein, avant le zénith, tu ne dois pas prier. Jusqu'à ce que l'ombre commence à dépasser la lance. Il dit, bon, avant le zénith, tu t'arrêtes, tu pries pas. parce que c'est un moment où c'est comme la chaleur de l'enfer qui sort à ce moment-là. Puis, quand l'ombre commence à dépasser le zénith, alors là, tu peux commencer à faire la salat, parce que la salat, il y a des témoins qui y assistent. Puis, il dit, jusqu'à ce que tu pries Al-Asr par la suite. Puis, quand tu as prié Al-Asr, abstiens-toi de prier jusqu'à ce que le soleil se couche, parce que le soleil se couche entre les deux cornes du shaitan. Et à ce moment-là, les kuffars s'y prosternent, se prosternent devant le soleil. Et ça, c'est rapporté par l'imam muslim. Le cheikh, il dit, فَنَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الصَّلَاةِ وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَوَقْتَ الْغُرُوبِ مُعَلَّلًا ذَلِكَ النَّهِي بِأَنَّهَا تَطْلُعُ وَتَهْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ وَأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارِ. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire la salat dans ces deux temps, le temps du lever et le temps du coucher du soleil. Et la raison pour laquelle il l'a interdit, c'est parce que le soleil se lève et se couche entre les cornes d'un shaitan, et à ce moment-là, les kuffars s'y prosternent. Et donc, on sait très bien, Cheikh il dit, معلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله. وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق. Donc le cheikh, il dit, on sait très bien que le croyant, quand il se prosterne ou quand il fait la salat, il le fait uniquement pour Allah. Il se prosterne pas pour le soleil ou les autres choses. Hein? Alors il dit, la plupart des gens, peut-être qu'ils ne savent même pas que le soleil se lève et se couche entre deux cornes du shaitan, et ils ne savent pas non plus qu'à ce moment-là les kuffars se prosternent au soleil. Mais malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire la salat dans ce moment-là pour fermer la porte à toute ressemblance avec les kuffars par tous les moyens possibles. Donc le cheikh il dit, ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام وممن يظهر الإسلام يعظم الكواكب. سبحان الله. Il dit ici, بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام يعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح. وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب توسلا بذلك وزعموا إلى مقاصد دنيوية من الرياسة وغيرها وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين كان ملوكهم النماردة الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. Cheikh, il dit que certaines personnes, on peut comprendre des points bénéfiques dans cette interdiction de se prosterner dans ces deux temps-là. Du fait que parmi les gens qui se prétendent musulmans, il dit à son époque, il y a des gens qui se prétendent musulmans, qui montrent qu'ils sont musulmans, qui font partie des mushrikin as-sabi'a, les adorateurs des étoiles. Et ils exaltent, ils vénèrent les étoiles. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ces gens-là, ils s'adressent aux étoiles pour leur demander leurs besoins, et ils se prosternent aux étoiles, et ils font des sacrifices, et ils égorgent des animaux pour les étoiles. Il dit, il y a même des gens qui se disent musulmans, qui prétendent appartenir à l'islam, et qui suivent cette voie des mushrikin, as-sabi'a, et les barahima. Les barahima, c'est comme les hindous, hein? Ceux comment on les appelle, les brahmanes, hein? Les brahmanes. Donc eux, ils adorent les, ils ont, il y a un des gens qui se disent musulmans, il a écrit un livre pour eux, hein, au sujet de l'adoration des étoiles, ou bien au sujet de faire le tawassul par les étoiles. d'adorer Allah à travers les étoiles ou des choses comme ça. Et ils prétendent qu'ils ont fait ça pour des intérêts de la dunya, pour avoir des positions importantes ou des choses de ce genre. Il dit mais ça fait même partie du sihr, hein, de la sorcellerie que pratiquaient les habitants de Canaan, ceux dont les rois étaient on les appelait les Namarida. On appelle leur roi Nimrod. Nimrod, c'était le nom de leur roi. Donc, c'est à eux que Ibrahim alayhi salam avait été envoyé avec la religion de l'unicité d'Allah et de la pureté de la croyance en Allah seul et d'établir la religion pour Allah seul dans l'adoration. Ibrahim avait été envoyé à ces gens-là. Hein? Donc, ça c'est clair. Une fois j'ai vu un homme comme ça, je me rappelle quand j'étais en France, dans le sud de la France, très tôt le matin, comme on a prié le Fajr à la mosquée, puis après le Fajr on est parti pour se baigner dans la Méditerranée. Et sur le bord de l'eau, il y avait un homme qui était assis sur la plage et il faisait face à l'est, hein. Et puis, subhanallah, c'est comme s'il faisait il restait dans une position assis là, puis il faisait face au soleil, il attendait il se mettait comme ça, puis comme s'il méditait ou je sais pas quoi. Ouais, comme un truc de yoga. Exactement, mais dans le yoga, comme tu dis là, il y a qu'est-ce qui s'appelle la salutation du soleil, des choses de ce genre. Tout ça, c'est des formes de shirk et d'adoration du soleil. C'est pas permis pour les musulmans de pratiquer ça, même s'ils le font pas pour adorer le soleil. Ils disent que c'est comme une forme d'exercice pour rester en forme, mais c'est pas permis parce que pour eux c'est une religion. Donc on n'a pas le droit de les imiter là-dedans. Si on n'a pas le droit de prier la salat pour Allah seul à des moments où les mouchriquins adorent le soleil, alors que dire de faire des activités comme le yoga qui fait partie de la religion, hein? Il y avait une femme en Algérie à l'époque, quand il y avait toute la crise avec le fils et tous ces trucs-là, là. Subhanallah, c'est une journaliste, elle est laïque et tout, elle dit que quand elle était jeune, elle n'aimait pas prier comme les musulmans, elle trouvait que c'était comme rabaissant de se prosterner. Alors elle a inventé une autre façon de faire la salat. Elle dit qu'elle se mettait comme une position de yoga pour prier ou des choses comme ça. Après elle a demandé à son père, est-ce que c'est correct, qu'est-ce que je fais? Et son père lui a dit, mais non, tu contredis la sunna, tu fais ça. Elle dit, oui, mais est-ce que Allah il va l'accepter? Est-ce que pour Allah c'est correct? Il a dit, ouais, pour Allah peut-être, mais pas pour les gens. C'est l'ignorance, tu vois. Quand les gens ne connaissent pas la religion, ils veulent inventer leur propre façon d'adorer Allah. Alors qu'on sait très bien, nous, que pour que nos actions soient valables, il faut qu'elles respectent deux conditions. La première condition, c'est que nos actions doivent être faites en accord avec, premièrement, Al-Ikhlas, qu'elles doivent être faites uniquement pour Allah seul, qu'on ne doit rien associer avec Allah dans nos actions et dans notre adoration. Et deuxièmement, il faut qu'elle respecte la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa sharia. Donc il faut qu'on adore Allah tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a montré. Si on amène des choses qui sont nouvelles ou différentes, Allah ne va pas l'accepter, même si on a une bonne intention. Ce n'est pas suffisant d'avoir la bonne intention. Donc ça c'est pour montrer, hein, comment c'est important de vraiment bien connaître la religion pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Il y a des koufars comme ça qui disent moi je crois pas en les religions, je veux juste adorer Dieu. Mais la religion elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui l'a révélé à ses messagers pour qu'on la suive. Le problème souvent c'est que les gens ont changé la religion d'Allah. Et c'est pour ça que on retrouve plusieurs religions. Mais sinon, à la base, il n'y a que la religion d'Allah. Et souvent les ulama ils disent il y a deux religions seulement, la religion de la vérité et la religion du mensonge et du faux. La religion de la vérité, elle est une, unique. Et la religion du mensonge et du faux, elle est infinie. C'est-à-dire il y en a un nombre illimité d'égarements. Hein? Et les ulama ils disent aussi « Al-kufru millatun wahida ». C'est-à-dire les kuffars, même s'ils sont dans des centaines de religions, mais ça ramène à une seule religion qui est le kuffar, la mécréance ou le shirk. D'accord? Donc le shirk peut se manifester de milliers de façons, et le kuffar peut se manifester de milliers de façons, mais la religion d'Allah, le tawhid et l'islam et la religion des messagers et des prophètes, c'est une seule et unique religion qui ne se divise pas. Qui ne se séparent pas. Et même si les messagers d'Allah, chacun il est venu avec une charia qui correspond à une époque ou à un peuple particulier, mais par contre, le message du tawhid, ça a toujours été le même. Et la base du message, c'est toujours la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, qu'est-ce qu'il explique ? Le Cheikh il dit وإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. Ça c'est une règle. Le Cheikh il dit donc si on dit qu'il y a des gens qui se disent musulmans qui faisaient ces choses-là à son époque, hein, puis aujourd'hui encore probablement, alors dans ce cas-là le Cheikh il dit donc on peut comprendre la sagesse du législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, dans l'interdiction de faire la salat dans ces moments-là de la journée pour fermer la porte à tout égarement et à toute forme de shirk dans lesquels on pourrait tomber. Il dit parce qu'il y a quelque chose ici qui nous indique que tout ce que font les mushrikoun comme adoration, hein, de ce qui fait partie de la mécréance ou du péché, hein, que ça n'a pas rapport avec notre intention, dans le sens que on doit interdire aux croyants de le faire comme eux et de les suivre en apparence et de les imiter en apparence, même s'ils n'avaient pas l'intention de faire la chose pour la même intention que ce pourquoi les mouchtikines le faisaient. Ok? Mais ça, c'est dans le but de fermer la porte. Tu vas dire, comme par exemple, quelqu'un, il veut prier au lever de soleil, il veut faire rak'atayn. Tu lui dis, Yahri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de prier au lever de soleil. Au moment où le soleil se lève, ça, c'est le moment où les mouchtikines adorent le soleil. Et le frère ou la sœur ou la personne, elle répond, elle dit, oui, mais moi, j'adore pas le soleil. Mon intention, c'est pas d'adorer le soleil. Moi, j'adore Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui, mais c'est un moment dans lequel les mouchriquines adorent le soleil. Donc, le prophète nous a interdit de le faire pour justement ne pas les imiter. Et supposons que toi, tu pries à ce moment-là quand même. Hein? On va dire que là, tu es à un endroit où des gens peuvent te voir dehors. Et que tu pries, puis le soleil se lève. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser à ce moment-là? Qui te voient et qui ne savent pas qu'est-ce que tu fais, ils vont penser que tu adores le soleil. Hein? Donc tu vas dire, oui, mais moi j'adore pas le soleil, mais tu donnes l'impression aux gens que tu es en train de le faire. Ça ouvre la porte à du shirk. Peut-être quelqu'un qui ne connaît pas, il va commencer à penser que c'est ça que tu es en train de faire. Il dit, ومن هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله إلى حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا. Ça c'est un point important aussi. C'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait vers un pilier ou vers un morceau de bois ou quelque chose, il ne priait pas directement en face. Il se mettait un petit peu à gauche ou un petit peu à droite de, du bâton. Oui, que ce soit une sutra ou autre, qu'un un pilier dans la mosquée ou quelque chose quelconque, il ne priait pas direct en face. Il priait un petit peu à gauche, un petit peu à droite, hein, pour pas que les gens pensent ou disent qu'il prie directement hein, au pilier ou au bâton. Hein. C'est comme un exemple, par exemple. Si, tu, si quelqu'un va prier de, devant ce, ce porte-micro-là, il ne doit pas prier juste direct en face, mais il se tasse un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, tu vois, pour pas montrer qu'il est en train de prier en face direct. Pas, quand je dis à gauche ou à droite, ça ne veut pas dire un écart là, loin, mais un petit peu pour que tu ne sois pas vis-à-vis, d'accord? C'est la même chose des fois aussi, il y a des choses, il faut regarder devant quoi vous priez. Je me rappelle, une fois, on était quelque part, puis on allait faire la salate. On était dans un barbecue. OK? Et il y avait le truc là pour faire, où on met le charbon, puis le feu et tout. Donc, les frères, ils ont dit, bon, on fait la salate. Ils ont mis le barbecue comme sutra. Puis là, il y avait le feu qui sortait. On a dit, subhanallah, akhi, on va pas prier devant le feu comme ça. Comme ça, les gens vont dire, ah, ces gens-là, ils adorent le feu. C'est l'imitation des majus. Nous, notre intention, c'est pas d'adorer le feu, tu vois. C'est un barbecue qu'on est en train de faire. Mais les gens vont penser, vous êtes en train d'adorer du feu. Hein? Donc, tout de suite, on a enlevé le barbecue, on l'a mis à côté, puis on a pris quelque chose d'autre pour faire la sutra. Hein? Mais c'est pour dire, même si notre intention, c'est pas quelque chose, il faut voir aussi, en apparence, à quoi ça ressemble. Hein? Ça, il y a divergence entre les ulama, mais la position la plus claire, c'est que la sutra, c'est obligatoire. Sutra, c'est obligatoire. Aina. Donc, tu avais une question, Abdul Karim? Non, ça va? Ok. Donc c'est ça. Puis, aussi, c'est ça. Il faut voir. Des fois, pour nous, c'est quelque chose est clair. Mais ça ne veut pas dire que c'est clair pour tout le monde. Surtout que les koufars, vous savez, ils ont une très vaste imagination. Ils peuvent essayer de donner toutes sortes d'interprétations à qu'est-ce qu'on fait. Même si, parfois, ça n'a pas du tout rapport. Non, c'est ça. Moi, comme je dis, je pense qu'il n'y a pas de problème à faire ça. Mais c'est juste que j'ai lu dernièrement une fatwa qui avait été posée, une question qui a été posée à quelqu'un. Et moi, je connaissais, j'ai pas pris le temps de lire la réponse. Mais je me disais peut-être que dans la réponse, il y avait quelques détails que j'ignorais. Donc, j'aurais voulu la lire. Mais jusqu'à date, je ne connais pas de paroles des ulama qui interdiraient de le faire. Oui, le croissant. Ils utilisent des fois dans certaines mosquées sur le bout du toit ou par-dessus le dôme en haut, ils mettent le signe d'un croissant avec une étoile. Puis c'est devenu dans certains, même dans les livres de religion, ouais, c'est devenu comme le symbole de l'islam. Ils utilisent ce symbole-là. Comme il y a le nouveau cours qu'ils donnent maintenant au primaire puis au secondaire, ici le cours d'éthique et de religion, là, de culture de religion. Je suis allé à la bibliothèque de la didactique. À l'université, puis j'ai jeté un coup d'œil à différents modèles de ces livres d'exercices qui sont utilisés, puis des manuels de cours pour ce cours-là, puis en fait c'est vraiment ridicule comment c'est fait, puis ils mettent toujours le signe du croissant avec l'étoile pour représenter l'islam. Dans l'islam, il n'y a pas ce symbole-là. Ça, c'est venu après, ça. Ça ne fait pas partie de la sunna. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que qu'est-ce qui est mauvais en plus de ça, c'est que souvent ils mettent toutes les religions ensemble. Le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam. Puis les chrétiens, ils ont toujours tendance à vouloir mettre le christianisme et le judaïsme ensemble, comme une catégorie à part. Puis ils placent l'islam avec le bouddhisme et l'hindouisme. Psychologiquement, ça a un effet dans la mentalité des chrétiens, de faire croire aux chrétiens que l'islam c'est une religion d'idolâtrie ou une religion qui n'est pas sur la même voie que, disons, qu'est-ce que les prophètes et les messagers précédents ont enseigné. Donc c'est ça, oui, moi je me rappelle, même quand j'étais au primaire, c'est une des choses qui m'avait fait éloigner de la religion musulmane. Depuis le départ, j'avais une attitude ou une position négative vis-à-vis de l'islam quand j'étais en deuxième année ou en troisième année, à cause de qu'est-ce que j'avais lu justement dans mon livre à l'école, parce qu'il montrait le christianisme et le judaïsme comme si c'est une religion monothéiste. Puis les autres religions, l'islam, le bouddhisme et l'hindouisme, ensemble. Donc tout de suite, dans ma tête, moi, qu'est-ce que j'avais pensé ou compris de ça, c'est que l'islam fait partie des religions qui adorent des idoles. Et jusqu'à très longtemps après, j'ai continué à penser que dans la religion musulmane, les gens adoraient des idoles. Ça m'a pris beaucoup de temps à, justement, faire des recherches, puis à étudier, pour comprendre à la fin que non. Hein? L'islam, c'est une religion monothéiste, même que c'est la religion monothéiste par excellence, parce que c'est la religion de tous les prophètes. Et en même temps, les chrétiens, ils disent toujours, les musulmans, ils prient à un Dieu qui s'appelle Allah. Hein? Comme si c'était un autre Dieu que celui qui a créé les cieux et la terre. C'est un Dieu juste pour les musulmans, que c'est eux qui l'adorent seulement. Et ils disent, et ils croient en un prophète, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ils disent ça d'une façon pour dire comme si on ne croit pas à d'autres prophètes que lui. On croit uniquement à un prophète, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on ne croit pas aux autres. Alors que c'est faux. On croit en tous les prophètes que Allah a envoyés, et même on croit en Isa alayhi salam. Donc, ils déforment la réalité, ils falsifient les choses pour éloigner les chrétiens de l'islam. Et ça peut sembler simple et insignifiant pour un musulman, dans le sens que si quelqu'un est né dans l'islam, il peut pas comprendre que comment des petits détails comme ça, ou des informations aussi simples que ça, peut faire détourner quelqu'un. C'est pour ça que tu vois des fois des musulmans, quand ils font des discussions avec des chrétiens, ils rentrent dans des trucs très très compliqués, alors que parfois t'as seulement besoin de dire quelque chose de très très simple sur le tawhid et sur la foi en les messagers, et ça suffit pour clarifier à un chrétien que l'islam c'est la vérité. Tu lui expliques les cinq piliers de la foi et ça y est, il est prêt à faire le shahada, parce que c'est seulement ça qui lui manquait pour être confiant que l'islam c'est la vérité. Il lui manquait ces informations là seulement. Non. Moi, qu'est-ce que j'ai appris par rapport au symbole, qu'est-ce qu'ils disent d'Alune, c'est parce que quand on commence le Ramadan, eh bien on attend de voir le croissant de lune qui naît. Et c'est ça qui détermine le début du Ramadan. Et il y a toujours l'étoile qui est proche de la lune à ce moment-là. Donc, à cause de ça, ils ont fait de ça le symbole pour montrer. Je ne sais pas qui l'a fait. Ça se peut que ce soit très ancien, mais je ne sais pas exactement. Ah. Allahu a'lam. Donc moi je sais pas, mais on va se renseigner. L'important, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que ça fait pas partie de l'islam, ces croissants, ces trucs de croissants et d'étoiles. Ensuite, qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il dit wali hada naha an as-salati ila ma ubida min dunillahi fil jumla wa illam yakun al-'abid yaqsudu dhalik wa li hada yunha عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله.
Il dit c'est pour cette raison là que on doit interdire à quelqu'un de faire la salat en direction de ce qui est adoré en dehors d'Allah. On doit interdire à quelqu'un de faire la salat en direction de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple une tombe, hein, un tombeau, une idole, une statue, une croix, même si la personne il n'a pas l'intention de l'adorer cette chose, même si la personne son intention c'est pas d'adorer cette chose. Donc faites attention quand vous priez quelque part, s'il y a des images, des statues, des posters avec des photos dessus, des croix, hein, peu importe, des choses que les gens ont l'habitude d'adorer en dehors d'Allah, vous vous prosternez pas devant ces choses-là. Et même qu'il dit le cheikh qu'on a été interdit de se prosterner de se prosterner à Allah devant un homme. On n'a pas le droit de se prosterner à Allah devant un être humain, devant un homme, même si c'était pas notre intention de se prosterner à cet homme. Notre intention c'est de se prosterner à Allah, mais il y a un homme devant nous. Au moment où on se prosterne, on n'a pas le droit de faire ça. Par exemple, si quelqu'un est debout en face de toi, tu ne vas pas prier devant lui. Mais s'il y a quelqu'un qui vient pour passer devant toi, dans la sunna, déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné de ne pas laisser quelqu'un passer devant nous. Hein? En principe, entre toi et ta sunna, entre toi et ta sutra, il ne faut pas laisser personne passer. D'accord? Si quelqu'un essaie de passer, tu as le droit de le pousser. Tu as le droit de l'empêcher. Cheikh Nazim, c'est un Dajjal, un shaytan, qui est le cheikh de la tariqa Naqshbandiya. Et il est décédé maintenant, il est mort, alhamdoulilah. Allah nous a débarrassé de lui. Mais cet homme, il a plein au shirk, il a plein de bid'a et des gamins. Mais il y a une photo qui a été faite où un de ses mourides se prosterne à ses pieds. Et donc, j'ai trouvé cette photo-là, subhanallah, parce qu'il y avait un frère malien qui était dans mes contacts. Et lui, c'est un frère, en tout cas, je ne vais pas commencer à raconter toute sa vie, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, il est tombé avec les Naqshbandis. C'est pas un frère qui était sur la sunna ou quoi. C'est un frère qui a eu une éducation occidentale. Il connaissait pas bien la religion. À un moment donné, on se voyait pas souvent, puis on se parlait pas souvent non plus. C'est quelqu'un qu'on voyait comme ça occasionnellement. Et bien, à un moment donné, il a commencé à se tenir chez les soufis. Puis, il a mis cette photo-là comme photo de profil. Oui, dans WhatsApp, Yanni. Il a mis comme photo de profil quelqu'un qui est prosterné devant Nazim. Moi, j'ai cru que c'était lui dans la photo. Donc, je lui envoie un message pour lui dire, Yahri, ça c'est du shirk. Comment tu peux te prosterner devant un être humain? Et là, il m'a répondu par des insultes et puis il m'a bloqué. de ses contacts. Donc, Allah musta'an. Moi, j'ai écrit un tweet comme ça. J'ai mis ça sur Twitter. J'ai mentionné que, regardez, qu'est-ce que ces gens-là font, les soufis, hein, ils se prosternent devant le cheikh. Et ça, c'est interdit. Hein, ça, c'est du shirk. On n'a pas le droit de se prosterner devant autre que Allah. Et lui, il y a un des Naqshbandis qui a répondu, qui a dit, il n'est pas en train de se prosterner, il est en train de lui masser les pieds. Peut-être. Ouais, ah, toi tu parles de. Ouais. Oui, c'est vrai, je l'ai vu ça, oui. C'est vrai, il danse, puis à un moment donné, il arrête de danser, il s'en va devant le cheikh et il se prosterne. Ouais, non, je sais de qui tu parles, ouais, je l'ai vu ça. Ça, c'était même à Montréal, cette vidéo-là, dans la mosquée de Omar Kone, justement.
Il tourne en rond là, comme les derviches, comme ça, puis à un moment donné il arrête de tourner, il s'en va se prosterner. Mais c'était pas Nazim, c'était l'autre là, son adjoint ou je sais pas quoi là. J'ai oublié son nom à lui. Ouais, non, je l'ai vu faire. Exactement, donc c'est pour ça. Ils disent, non, on faisait juste lui faire un massage des pieds. Est-ce que tu as besoin de te prosterner devant quelqu'un pour lui faire un massage? Non, mais parce qu'ils savent que qu'est-ce qu'ils font, c'est shirk. Mais ils veulent, comme on dit, Allah il dit dans le Coran, فَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ. Le shaitan leur a embelli leurs actions. Tu vois, il y a des gens qui font les choses les plus laides au monde, et malgré tout, ils essaient de s'en vanter, ou d'en parler comme si c'était quelque chose de bien, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est pas bon. Il dit, فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة من في الجهات وفي الأوقات وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها وكذلك لا يصلى إلى ما يصلون له بل هذا أشد فسادا فإن القبلة شريعة من الشرائع وقد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله كما قال سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. Donc le cheikh il dit, regardez, cheikh l'islam ibn Taymiyyah, il dit, regardez comment la sharia a coupé toute ressemblance avec les mouchriquins, dans les directions, l'orientation dans laquelle on prie, et même dans les moments dans lesquels on adore Allah subhanahu wa ta'ala, et comment on ne doit pas prier dans la direction dans la qibla que eux ils prient. C'est-à-dire, on prie, notre qibla des musulmans, c'est pas la même que celle des juifs et des chrétiens. On a notre qibla, on prie vers la Kaaba. Et il dit que ça c'est possible parce qu'il y a des divergences entre les prophètes dans leur sharia, chacun ils ont leur législation. Mais en ce qui concerne le fait de se prosterner à autre que à Allah, il dit ça c'est quelque chose qui a été interdit dans la religion, hein, par tous les prophètes que Allah et tous les messagers que Allah a envoyés. Il n'y a pas un messager d'Allah qui a justifié ou accepté ou permis qu'on adore autre que lui, autre que Allah. Et le cheikh il mentionne le verset 45 dans sourate Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. C'est-à-dire, demande à ceux qui ont été envoyés avant toi, ceux que nous avons envoyés parmi les messagers, parmi nos messagers avant toi, ô Muhammad, est-ce qu'on a fait qu'il y ait une divinité qui doit être adorée en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman? Est-ce qu'il y a une autre divinité qui a été ordonnée d'adorer autre que Allah? Certes, non. Et ça, c'est une bonne question à poser aux chrétiens. À chaque fois, moi, je pose toujours ça, cette question-là aux chrétiens. Non, franchement. La question, est-ce que dans les prophètes qui ont été envoyés auparavant, est-ce que parmi ces prophètes-là que Allah a envoyés, il y en a un parmi eux qui a dit d'adorer autre que Allah seul? Hein? Tu comprends? Donc ça, cette question, ça détruit tout. Tu dis, Jésus, il a dit, hein, qu'on doit juste adorer Dieu. Hein? Il a dit, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Tu dis, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, est-ce que c'était Jésus? Hein? Ils ne peuvent pas dire oui. Oui. Donc, il a dit, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, est-ce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu que eux, ils priaient quand ils faisaient des doigts, quand ils demandaient, ils ne demandaient pas à Jésus, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une preuve contre les chrétiens. Moi je dis toujours, je leur dis toujours ça. Et ils le savent. Même s'ils essaient après de jouer avec les trucs. Non, ceux qui veulent. Parce qu'ils adorent leur passion. Ils suivent leur passion. Naam. Il dit, وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة فقال له لا تجلس هكذا فإن هذا يجلس الذين فإن هكذا يجلس الذين يعذبون وفي رواية تلك صلاة المغضوب عليهم وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده روى هذا كله أبو داود ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللا بأنها جلسة المعذبين وهذه مبالغة في مجانبة هديهم الشيخ الذي سيغابورتي selon ابن عمر il dit qu'il a vu un homme qui alors qu'il était assis dans la salat il s'appuyait sur sa main gauche alors qu'il priait. Alors, on lui a dit, ne t'assois pas ainsi. Parce que ça, c'est la façon dont s'assoient les gens qui sont châtiés. Et dans une autre narration, ça, c'est la façon dont ils font ça, c'est ainsi que font la salat ceux sur qui Allah a mis sa colère. C'est-à-dire les juifs. Et dans une autre narration, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit à un homme, de s'appuyer sur sa main alors qu'il est dans la salat, assis dans la salat. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud. Il dit le cheikh que dans ce hadith, il y a l'interdiction de s'asseoir de cette façon-là. Et la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne l'interdiction, c'est pour ne pas imiter les gens qui sont châtiés. Hein? Et donc ça, c'est pour montrer à quel point l'islam nous ordonne de contredire et de s'écarter de la guidance et de l'exemple. Il y en a des kuffars et des mouchriquins. Il dit وأيضا قد روى البخاري عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته فقال إن اليهود تفعله ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال نهى عن التخصر في الصلاة وفي لفظ نهى أن يصلي الرجل متخصرا. Donc il dit ici le cheikh que c'est rapporté également par Al-Bukhari selon Masruq, selon Aisha radiallahu anha que elle détestait que quelqu'un prie en mettant ses mains sur ses hanches ou sur sa taille comme ça. Et il dit ça c'est la façon dont font les juifs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté selon Abi Huraira, il a interdit de faire cette position-là dans la salat. Il a interdit que l'homme prie les mains sur ses hanches, sur sa taille. Et il dit, وَقَالَ هِشَامْ وَأَبُو هِلَالْ عَنْ إِبْنِ سِيرِينْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَى نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يعني ورواه مسلم في صحيحه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est ça. Ça a été mentionné par l'imam muslim aussi dans un hadith. Et c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui a interdit de faire ça. Il dit, وعن زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه رواه أحمد وأبو داود والنسائي. Donc le cheikh il dit qu'il rapporte un autre hadith selon Ziyad ibn Sabih. Il dit j'ai prié à côté de Ibn Omar, Abdullah ibn Omar. Il dit j'ai mis ma main sur ma hanche pendant la salat. Quand on a fini de prier, il m'a dit ça, c'est qu'est-ce que tu as fait, ça s'appelle as-salb. Et le prophète sallam a interdit de faire ça. Et ça c'est rapporté par Ahmed, Abu Daoud et An-Nasa'i. Il dit wa aydan an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma annahu qala ishtaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa sallayna wara'ahu wa huwa qa'id. Wa Abu Bakr yusmi'u أن يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم وإن صلوا وإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر شيخ الجيكة سيغابورتي قال ما سلو جابر بن عبد الله رضي الله عنه que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il se plaignait d'une douleur, ça c'est pas loin avant, il n'y a pas longtemps avant sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est venu quand même prier hein, et lui il a prié assis et les gens qui étaient derrière lui ils ont prié debout. Abu Bakr radiallahu anhu lui il répétait le takbir du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que sa voix était faible. Il était malade sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné et il a vu que les gens étaient debout derrière lui, alors il leur a fait signe de s'asseoir, alors ils ont fait leur prière assis. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini le taslim, il a fini la salat, il leur a dit: vous avez failli faire la même chose que ce que font les Perses et les Romains. Ils se tiennent debout devant leur roi alors que eux sont assis. Ne faites pas cela et suivez vos imams. Si l'imam prie assis, alors priez assis. Si l'imam prie debout, alors priez debout. Et s'il prie assis, alors priez assis vous aussi. Et ça c'est rapporté par Muslim et Abu Daoud selon Al-Layth et Ibn Zubayr et Jabir. Il dit وروى داود وغيره. Vous voyez, donc, le prophète sallallahu alayhi ne voulait pas du tout qu'il y ait des ressemblances hein, entre qu'est-ce que lui il fait et qu'est-ce que font les peuples des mushrikines et des kuffars. Il dit وروى أبو داود وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة ابن نافع القرشي عن جابر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصارعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتينا مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا فقال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائهم وأظن في غير رواية أبي داود ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها ببعض ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود. Donc le cheikh il dit, c'est un autre hadith aussi dans le même sens, okay, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était blessé à un pied et à cause de ça il était pas bien, donc des sahabes sont allés le visiter, puis quand il est venu il était en train de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils se sont tenus derrière lui, puis il s'est tué, il n'a pas parlé. Ensuite, ils sont partis, puis ils sont revenus plus tard, et ils priaient la salat obligatoire. Alors, ils se sont mis derrière lui debout, puis ils ont prié en le suivant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait signe de s'asseoir et ils se sont assis. Alors lorsqu'ils ont fini la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque votre imam prie assis, alors vous aussi priez assis, et s'il prie debout, alors priez debout. Ne faites pas comme ce que font les Perses avec leur roi ou leur leur personne, leur dirigeant ou leur, les gens qui sont importants parmi eux. Et il a dit dans une autre narration, il dit, je pense qu'il a dit dans la narration d'Abu Daoud, n'exagérez pas, ou bien plutôt, ne vénérez pas, ou montrez pas trop de respect envers moi, de la façon comment les Perses, par exemple, ou les musulmans non-arabes font et aller envers les uns envers les autres, comment ils traitent leur roi ou des choses comme ça. Dans un autre hadith, donc il a ordonné donc de ne pas prier debout quand celui qui dirige la prière est assis. Alors qu'on sait que dans la salat, le qiyam c'est obligatoire. C'est un pilier dans la salat. Si tu pries assis alors que tu as la capacité d'être debout, ta prière n'est pas valable dans la prière obligatoire. Donc tu es obligé de prier debout si tu es capable de prier debout quand c'est une prière obligatoire. Mais le cheikh il dit, mais dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand l'imam est assis, dans ce cas-là, il a ordonné de s'asseoir aussi, et il a donné la raison, c'est pour ne pas imiter les peuples des Perses et des Romains qui se tiennent debout en présence de leur roi alors que lui il est assis. Donc pour ne pas imiter les juifs, pas les juifs et les chrétiens, mais les Perses et les Romains, il a ordonné de ne pas le faire, de ne pas rester debout. Et il dit, ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه. Il dit, mais on sait très bien que la personne qui se tient debout derrière l'imam, qui est assis, il se tient pas debout pour l'imam, il se tient debout pour Allah. Mais malgré tout, pour montrer à quel point il ne s'est pas permis d'imiter les kuffars, eh bien il nous a interdit de faire comme eux. Il dit, وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد ونهي أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل و وعن الصلاة إلى ما عبد من دون الله كالنار ونحوها. Il dit donc que c'est pour cette raison-là, ça on voit la sévérité de l'interdiction ici, de yani prier debout alors que l'imam est assis, ou bien de rester debout alors que on n'a pas le droit de rester debout alors que l'imam est assis. Et il dit que ça c'est pour nous montrer à quel point il est interdit de ressembler ou d'imiter aux kuffars. Et il dit, même si c'était pas ton intention de leur ressembler. Donc on prend pas, on regarde pas l'intention dans les questions qui ont rapport avec la ressemblance. Comme par exemple quelqu'un qui s'habille comme les mouchriquins et les kuffars, ou comme les juifs et les chrétiens, il peut pas dire, moi j'ai pas l'intention de les imiter, je porte ça juste comme ça. C'est comme par exemple si une femme elle porte les vêtements des femmes chrétiennes ou des kuffars, elle dit, mais moi mon intention c'est pas de les imiter. La question dans la ressemblance aux kuffars, c'est pas basé sur l'intention. C'est-à-dire, c'est pas est-ce que tu as l'intention de les imiter ou non. La question c'est est-ce que tu leur ressembles, oui ou non. Si tu leur ressembles, donc dans ce cas c'est interdit, même si ton intention c'était pas de leur ressembler, ou même si ton intention c'était pas de faire qu'est-ce qu'ils font pour les mêmes raisons qu'eux. D'accord? Donc ça aussi, ça c'est très très important, parce que beaucoup de gens ils comprennent pas ce point-là, et ils veulent faire ils pensent qu'il y a une différence. Ils pensent, ah mais non, moi mon intention c'est pas de les imiter, c'est juste de faire ça. Les ulama ils ont dit qu'on n'a pas le droit d'imiter les kuffars et de s'habiller comme eux dans ce qui leur est particulier. Tu comprends? Donc s'il y a quelque chose qui fait partie des kuffars mais qui leur est particulier, comme par exemple si quelqu'un porte des vêtements comme un pantalon, un chandail, ça c'est pas spécifique nécessairement, ça veut pas dire nécessairement que la personne imite les kuffars et les mouchriquins, mais si sur ses vêtements ou dans la façon dont il porte ses vêtements, il y a quelque chose qui est spécifique aux juifs et aux chrétiens. Alors là, ça devient du tashabbuh. Par exemple, si quelqu'un porte le truc blanc là, non pas le nœud, pas le nœud de papillon. Ouais, les prêtres, quand ils portent leur robe, ils mettent un collier blanc. Le collet, oui, collet blanc dans leur cou. Ça, c'est pour, ça, c'est spécifique aux prêtres. Si tu portes ça, ça, c'est tashabbuh bil kuffar. Si, par exemple, les bouddhistes, ils ont une tenue qu'ils portent, orange et tout, là. Et ça leur est spécifique, cette tenue-là. Il y en a des rouges, il y en a des oranges, il y en a des jaunes. Ça, c'est spécifique aux bouddhistes. Ça, tu n'as pas le droit de porter ça. Tout ce qui est spécifique, comme par exemple les juifs, ils portent des habits noirs avec le chapeau, puis tout ça, et les couettes, là. Si un musulman, il commence à porter ça, ça aussi, on va leur dire, non, tu n'as pas le droit de t'habiller comme ça. Ça, c'est le vêtement des juifs. Ça, c'est l'imitation des juifs. S'il dit, non, moi, je ne veux pas imiter les juifs, tu vas lui dire, même si tu ne veux pas imiter les juifs, ça, c'est l'habillement des juifs. Là, tu ressembles à des juifs, c'est interdit de t'habiller comme ça. D'accord? On ne sait jamais, hein? Des fois, on entend des choses vraiment spéciales. Allah Mustaan. Si quelqu'un, il met une kippa, juste pour donner un exemple, vous savez, la coalition de Sharqawi, là, pour l'islamophobie, soi-disant, ils ont fait une marche, quand il y avait la charte, là, ils voulaient critiquer la charte. Eh bien, pendant leur truc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un juif qui était là-bas, et il avait sa kippa, et les musulmans faisaient la ligne pour faire des photos avec lui, pour montrer que, comme si je ne sais pas pour montrer quoi, Allahu A'lam, mais ils faisaient des photos, puis ils portaient la kippa sur leur tête, pour faire la photo. Ça, c'est pas permis. Ouais, la kippa, non, tout ça. Il y a une femme, elle avait le djilbab au complet, avec le niqab et tout, puis elle avait une pancarte avec elle dans sa main, avec le drapeau du Québec dessus. Déjà, il y a la croix blanche au milieu. Puis dans chacun des quatre carrés bleus, il y avait un signe religieux différent, comme le signe de l'hindouisme, le signe du judaïsme, un croissant avec l'étoile, puis dans l'autre carré, il y avait un signe de l'hindouisme, du bouddhisme. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils appellent Tawhid ou la Diyan, l'unification des religions ou des choses de ce genre. Ça, c'est kouf, même. Il y a des ulama qui ont dit ça, c'est kouf. Yani. Tu mets toutes les religions à égalité, celles qui sont yani, fausses avec l'islam, et tu les mets à égalité. Ça, c'est interdit. Yani. Ouais, mettre le drapeau de la France ou le drapeau des États-Unis ou le drapeau du Canada ou du Québec comme hijab, non, ça aussi c'est pas permis. Yani le drapeau, c'est pas, premièrement, c'est pas un vêtement, donc tu dois pas se le mettre sur ta tête, mais en même temps, s'il y a des signes sur ce drapeau là qui représentent des choses qui sont pas en accord avec l'islam, comme la croix en particulier pour le drapeau du Québec, donc ça c'est encore pire. Hein? Oui, il y a la croix du drapeau, il y a la croix blanche sur le drapeau du Québec, sans parler des fleurs de lys aussi. Tout ça, c'est des signes qui représentent le christianisme. Le fleur de lys représente la monarchie française. Et en même temps, ça a un lien avec le christianisme aussi, tu vois. Ouais, aussi. Donc, de façon générale, il ne faut pas imiter les kuffars. Hein? Il ne faut pas imiter les kuffars. Et dans les habillements et dans les trucs qui sont particuliers, si tu vas pas t'habiller, par exemple, avec une mode spécifique qui fait partie de la mode des kuffars, que ce soit la mode du rap, des rappers ou des affaires de hip-hop, ou la mode rasta, comme les gens qui s'habillent comme les Rastafarians, comme ceux qui mettent les dreads et tout, Bob Marley et compagnie. Allah Musta'an, parce que vous savez que ça, c'est une religion, hein, le Rasta. Hein, c'est une religion, ça. Oui, c'est sérieux, Allah Musta'an. Mais c'est une religion, en fait, il croit que l'ancien empereur d'Éthiopie, Haïlé Selassie, il croit que c'était Dieu. Et il l'adore. Et quand ils disent Selassie Haï, ils parlent de Haïlé Selassie, ils l'adorent comme s'ils croient que c'était Dieu. Aïnaam. Donc, c'est très grave, c'est des gros mouchriquines. Hein, des fois, tu vois des jeunes musulmans qui écoutent du reggae, là, puis ils répètent les paroles. Djano, Selassie Aïno, des choses comme ça. Tout ça, c'est du shirk. Tout ça, c'est du kofr et du shirk. Même Bob Marley, dans une de ses chansons, quand la chanson, je pense, c'est Get Up, Stand Up, il dit God is a living man. Dans la chanson, il dit God is a living man. Il dit Dieu est un homme vivant. Donc ça veut dire que pour lui, Dieu c'est un homme. C'est Haïlé Selassie. Ouais, comme qu'il croit que c'est incarné, que c'était Jésus en fait, qui était revenu, mais sous la forme de cet empereur. Donc, c'est ça. Et puis ils adorent, ils croient que le paradis, ça va être quand les Noirs vont retourner à Zion. Hein? Donc je ne sais pas si ça a un rapport avec le zionisme ou quoi, mais bon. Ils croient que ce sont eux les vrais juifs. Les vrais juifs. Et qu'est-ce qu'ils ont aussi comme croyance? Bon, que la marijuana c'est halal. Ils l'utilisent même comme un truc de religion parce qu'ils l'utilisent pour méditer puis pour prier. Donc ils croient que quand ils fument, ça les amène à des états de conscientisation de Dieu, puis là il prie avec l'utilisation de ces drogues là tu vois. Et puis même il y a des sectes soufis qui ont fait ça aussi, qui utilisent la drogue. Les chrétiens utilisent le vin. Donc il y a beaucoup de religions comme ça qui utilisent les intoxicants comme objet là, ou méthode pour méditation, mais tout ça, ça a été interdit par l'islam. De même que les Rastas, ils interdisent des choses qui sont permises dans l'islam, puis ils permettent des choses qui sont interdites. Donc, d'imiter ces gens-là, c'est haram. Tu vois, des fois, des frères qui viennent de la Somalie, puis de ces régions, Djibouti, Somalie, parce que les Jamaïcains ont un grand respect pour l'Éthiopie, puis ils mettent toujours le drapeau vert, jaune et rouge, ou vert, noir et rouge, tout ce qui ramène à l'Afrique. Donc tu vois, les Africains, ils ramènent cette culture-là aussi, puis ils pensent que c'est quelque chose qui est en accord avec l'islam, mais tout ça c'est shirk, et c'est kufr. Et puis les musulmans, ils n'ont pas le droit d'imiter ces gens-là dans ces choses-là. Donc, tu vois au Sénégal, puis dans d'autres pays africains aussi, comment il s'appelle l'autre? Fakoli, là. Hein? Tidjane? Ouais, Tidjane Fakoli. Bon, lui, la même chose, toujours avec... c'est ça que je disais. C'est quelqu'un qui se dit musulman, Alpha Blondie, la même chose. Tous des gens qui sont à l'origine, c'est des musulmans, mais ils adoptent le style puis la mode de ces koufars et de ces mouchriquines. Donc c'est très très grave. Puis il a des paroles dans certaines de ses chansons, il y a des paroles dans lesquelles il appelle à l'unification des religions et l'unité des religions. Tout ça c'est du kofre et du shirk. Donc ça c'est très très grave. Il y a des musulmans, ils sont tellement ignorants du tawhid et des fondements de l'islam qu'ils les suivent là-dedans. Et il y a des musulmans aussi maintenant, bon j'ai vu ça dans certains reportages ou des choses comme ça, ils ont aussi adopté les modes des vêtements, des gothiques, ou les modes des gens qui écoutent la musique heavy metal, ou bien la mode des gens qui écoutent toutes sortes de différentes tendances musicales. Mais toutes ces musiques-là en réalité, c'est pas juste un divertissement, c'est une mode de vie. Pour certains, même que c'est une religion aussi derrière. Non. Ben, toi tu dis Spider-Man, mais moi j'ai vu une photo quand c'était le Noël passé au Sénégal. Tu vois, déjà au Sénégal il n'y a pas de neige, mais le musulman. Hein, avec son tapis de prière, avec son costume de Père Noël. Et puis, il faisait la salat. Mais c'est pour dire que tout ça, c'est des imitations des koufars aussi. Les musulmans, les pays musulmans qui se promènent habillés en Père Noël pour donner des cadeaux ou vendre des jouets aux enfants, ça, il n'y a pas de doute que c'est haram, yani. Non. Oui, il sait. C'est comme ils disent dans les chansons de Noël, he knows when you are sleeping, he knows when you are awake. C'est le Père Noël, il sait quand est-ce que tu dors, il sait quand est-ce que tu es réveillé. He knows if you've been good or bad, so be good for goodness sake. Donc tout ça c'est des exemples comment il donne au Père Noël des attributs divins. Et dans les chansons même, ils disent, comme par exemple, juste pour vous dire, parce que moi je sais, j'ai grandi dans ces trucs-là. La chanson, ça commence, au début ça dit, c'est la belle nuit de Noël, la neige a mis son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, ils feront une courte prière. Puis là ils disent quoi? Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Ça, ça veut dire que les enfants qui font une doa, ils font une prière au Père Noël pour qu'il leur amène des cadeaux. Donc tout ça c'est du shirk, hein? Bon, les gens, il y a des parents musulmans qui connaissent pas ça ou qui savent pas la gravité, et puis qui répètent ces chansons, qui apprennent ça aux enfants aussi, tu vois? Donc
lui, il était à la mosquée, ses enfants sont sortis pour le Halloween. Lui, un des enfants, il était habillé en Pharaon.
Oui, non, c'est ça.
Allah
Musta'an.
Son enfant, il est habillé en Pharaon.
Oui, non, j'ai vu ça. Nasallallahu alayhi wa sallam. On a vu des femmes musulmanes voilées avec leurs enfants habillés en shaytan, habillés en vampire, habillés en diable. Et elles passent dans les rues pour demander des bonbons à l'Halloween. Tout ça, c'est de l'imitation des koufars. Et c'est le sujet de ce livre. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les différents hadiths qu'on a vus, il nous interdit de les imiter, même dans des choses qui font partie de leur religion, dans leurs croyances. Et donc beaucoup de choses que le prophète Sassam nous a enseigné, il nous a dit, faites pas comme eux, faites pas ça, parce que ça c'est comment les juifs et les chrétiens font. Donc juste pour terminer, parce que là on est arrivé à la fin du cours, juste pour que je traduise la partie qu'on a lue en dernier. Donc il leur a interdit de rester debout lorsque les autres sont assis, pour pas imiter les gens de Perse et de Rome. Il dit, on sait que ce n'était pas leur intention. Il dit, donc c'est pour ça que le prophète s'en a interdit plein d'autres choses comme ça, de se prosterner devant un homme, ou de faire de la salade vers, ou en direction de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de prier vers le feu, ou des choses comme ça. Il dit, fa fi hadha al-hadith aydan, nahyun an amma yushbihuhu, ou ma yushbihuhu, fi'al faris wal-rum. Wa in kanat نيتنا غير نيتهم لقوله فلا تفعلوا. Donc il dit, c'est pas juste de yani, par exemple tu dis, moi je le fais pas pour la même intention que eux, c'est pas grave, du moment que tu leur ressembles, alors dans ce cas là tu as fait qu'est-ce qui est interdit. بل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟ Donc il va expliquer. Nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis au prochain cours on va continuer les exemples que le Cheikh a cités. Il y en a encore plusieurs. Après il va commencer à parler des exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous mentionne des choses et qu'il dit ça fait partie de la jahiliya. Donc le simple fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous interdit de faire quelque chose, il dit, même des fois il dit pas ça c'est interdit, il dit faites pas ça, ça fait partie de la jahiliya. Comme si le simple fait que ça fasse partie de la jahiliya, ça veut dire que c'est interdit. Donc on va voir ça probablement au dernier cours, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa iyyakum.